Je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous un sujet dont on parle peu. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui tourne autour de la violence et qui donne un éclairage singulier aux évangiles. Il s'agit de cette violence que l'on découvre dans une lecture attentive du Nouveau Testament. Le Premier Testament, pour sa part, vous l'avez vu dans les lectures et les textes que nous avions choisis, abonde en textes décrivant une violence souvent mise en scène, ritualisée, et dont on sent bien l'origine animale et brutale. Jean-Pierre vous a lu tout à l'heure le massacre des ennemis d'Israël, décrite par Benjamin. Cette violence n'est d'ailleurs la plupart du temps pas remise en cause par les auteurs. Elle sert leurs propos, ils l'utilisent dans leurs arguments et dans leurs démonstrations. Cette violence-là ne nous choque pas, même si elle est terrible, mais elle préside à la naissance des États. Elle relève du récit historique. Nous savons bien que c'est de là que nous venons, mais en fait, nous ne nous sentons guère concernés. Il en va différemment des évangiles, qui traditionnellement portent une toute autre parole. Les évangiles sont pour nous le choc de la révolution de l'amour. Cet amour porté par un homme, Joshua de Nazareth, le Christ. Et là, nous nous sentons concrètement concernés. Cette histoire est la nôtre. Nous en sommes les acteurs. Et ces textes nouveaux constituent un des piliers de notre réflexion. Nous les utilisons au quotidien pour éclairer notre vie. Mais à la lecture attentive de ce Nouveau Testament, quelle ne fut pas ma surprise de constater que, pour un enseignement d'amour, non seulement cette violence n'avait pas disparu, mais qu'elle était régulièrement présente. Et souvent extrême. Qui plus est, elle est portée par la parole de Joshua lui-même. J'en suis resté sidéré. Des exemples, en voici. Que chacun juge par lui-même. D'abord, Jésus rejette sa famille. Jean 2, 4, les noces de Cana. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » dit-il à sa mère qui vient l'informer du manque de vin. Alors, selon les traductions, c'est « De quoi te mêles-tu ? » « Quel est le différent qui nous oppose ? » ou pire encore, « Qu'y a-t-il de commun entre nous ?» Luc 8, 21. Jésus ignore sa mère et ses frères, bloqués par la foule qui cherche à le voir. Il les dédaigne en répondant « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Sous-entendu, ce n'est pas vous. Ensuite, Jésus règne sans partage sur ses disciples et sur ceux qui pourraient le devenir. Matthieu 16, 23. S'adressant à Pierre, qui le presse de ne pas aller se jeter dans la gueule du loup à Jérusalem, il dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 12, 30. « Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas, disciple. » Et Jésus exclut encore plus ceux qui n'acceptent pas son autorité, et il les accable. Jean 8, 44. « Juifs, infidèle à la foi, vous êtes du diable votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. » Matthieu 25-41. « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Luc 19-27. « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Jésus prêche aussi la division et l'éclatement violent des familles. Luc 12, 51-52. « Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? » Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé. 2 contre 3, 3 contre 2. Matthieu 10, 35-36. « Car je suis venu opposer l'homme à son père. » La fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Matthieu 10, 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et enfin, Jésus, dans un extrême sidérant, nous ordonne de nous haïr nous-mêmes. Luc 14, 26 et ses équivalents dans Marc 8, 34 et Matthieu 10, 37. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, je vous l'ai déjà lu, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En bref, dans ces propos de Jésus, on trouve l'anathème, l'exclusion, la division, l'appel à la haine de soi et jusqu'à la condamnation à mort. C'est lourd, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors déjà, on découvre que déclaration après déclaration, il ne s'agit pas d'accident de langage. On pourrait dire, on est passé comme ça par-dessus. Tant de violence et d'exclusion relèvent plus d'un chef totalitaire que du prophète de l'amour. Les documents sur la vie des premiers chrétiens confirment d'ailleurs concrètement ce caractère propre aux sectes. Les réponses faites à Jésus assez contradicteurs ne reposent jamais sur la coopération. Malheur à celui qui ne reconnaît pas l'amour de Dieu. Mais alors, comment aborder cette violence insupportable, incompatible avec ce prodigieux message d'amour qu'il nous a délivré ? D'abord, et fort heureusement, le message de Jésus ne se limite pas à ça. Mais faut-il pour autant l'ignorer ? Peut-on ne prendre qu'une partie de son message, la partie d'amour, et ignorer ce qui nous dérange ? Si nous refusons une partie des textes, où placer alors la limite de notre refus ? À quel moment dire « ça je le prends, ça je le laisse » ? Ces écrits qui constituent le canon théologique peuvent-ils être partiellement ignorés ? Laisser volontairement de côté une partie de la pensée de Jésus constitue un appauvrissement préjudiciable au sens de son message, voire même une forme de trahison. Une autre position serait, tout en n'ignorant pas ces déclarations extrêmes, les déclarations de Jésus, de prétendre que cette violence est le fruit d'une sainte colère engendrée par l'indignation. Et c'est vrai aussi. Qu'il s'agit là de la forme la plus haute de la révolte, celle qui met en mouvement vers des jours meilleurs. Dans ce cas, Jésus multiplierait les anathèmes pour mieux impressionner les indécis. Et que finalement, peu importe la méthode, pourvu qu'on sauve un pécheur. Mais dès lors, comment être crédible lorsqu'on prêche l'amour, c'est-à-dire l'empathie, l'ouverture aux autres, et que l'on tient des propos aussi violents, aussi extrêmes ? On peut également, à l'instar des théologiens de tout poil, rechercher laborieusement des interprétations différentes, métaphoriques. Mais les paroles de Jésus sont tellement tranchantes, tellement limpide qu'elle ne laisse pas de place au contournement. Les rédacteurs des évangiles les ont d'ailleurs laissées telles quelles, en dépit de leur charge explosive. À moins de tordre les textes jusqu'à les rendre méconnaissables, je ne vois pas comment on pourrait leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent clairement dès la première lecture. Alors, oui, il faut l'admettre. Il faut bien admettre que la personnalité de Jésus est double. Elle recèle aussi un côté sombre dont nous venons de prendre conscience. Il faut bien admettre que son action et une partie de son enseignement s'apparentent à l'intransigeance d'une secte, la secte des premiers chrétiens. Bien sûr, il existe un environnement historique et social propice à la violence de Jésus. Un pays occupé, en état de guerre civile larvée mais permanente. Une attente incommensurable d'un sauveur pour Israël depuis des décennies. Mais le message de Joshua n'est pas politique. Il n'a pas appelé à prendre les armes avec les zélotes pour autant. Ce ne sont pas là les raisons qui motivent ces déclarations violentes. Sa violence lui appartient à titre personnel. Son histoire familiale, son extrême solitude à l'écart des réseaux juifs traditionnels qui l'amènent à se radicaliser. Et plus encore, condition aggravante, son parcours théologique d'exception. Voilà des facteurs qui nous permettent de comprendre son agressivité récurrente. Après tout, la violence du prophète Joshua se situe bien dans la lignée des prophètes juifs du Premier Testament. Aussi, compte tenu de sa psychologie et de son action, lorsque Jésus nous demande d'exclure les humains pour déni d'opinion, rappelons Matthieu 12, 30, qui n'est pas avec moi et contre moi. Lorsque Jésus nous enjoint également de détester jusqu'à notre propre vie, Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, ses frères, ses enfants, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous pouvons comprendre l'origine de cette violence. Doit-on suivre cet enseignement pour autant ? Ce qu'il exige de nous relève de la pureté théologique totale, inconditionnelle, définitive, par nature inaccessible. Fallait-il aller aussi loin à l'époque pour faire passer le message de l'amour, ce message qui vient après, qui vient parallèlement? Personne ne le sait. Mais de nos jours, cette face sombre des évangiles de l'amour, nous laisse dans l'incompréhension. On peut y voir une partie du mystère divin. Dans ce cas, acceptons juste de ne pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. On peut y voir aussi la partie profondément humaine de notre prophète Yoshua, celle qui nous renvoie à une image double d'un homme qui a subi la violence, mais qui l'a aussi exercée. Le véritable amour ne délivre pas d'anathème, ne condamne pas, n'exclut ni ne rejette personne. Alors oui, il y a deux Jésus, différents, opposés. L'un rayonne de l'amour et de la lumière de Dieu. L'autre est englué dans la pâte des hommes. Mais en réalité, n'est-ce pas comme ça que Dieu a voulu tout homme? Et à travers son incessante quête de pureté, une quête bien au-delà des limites humaines, la question que nous pose Jésus, la question actuelle que nous pose Jésus, est essentielle, surtout en ces temps troublés. Au nom de la croyance, l'exercice de la foi doit-il conduire à la haine de tous ceux qui ne pensent pas comme nous, et pire encore, à la haine de soi? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ce n'est absolument pas comme ça que nous vivons notre foi, fort heureusement. De nos jours, cette violence est parfaitement inadaptée. Ceux qui continuent à la professer au nom d'une lecture historique rétrograde se retrouvent inévitablement dans une impasse. Toutefois, aujourd'hui encore, prenons garde à une pratique moins extrême, mais très répandue pour rejeter l'autre. C'est celle qui consiste à ignorer sa croyance, à rester en surface. Cette pratique plus subtile, mais plus insidieuse, permet de se côtoyer plus ou moins courtoisement, sans jamais chercher à se comprendre. Cette exclusion d'indifférence polissée, silencieuse tant qu'elle n'explose pas, et celle que nous vivons, c'est la négation du message d'amour de Jésus. Chacun reste soigneusement dans son confort culturel et idéologique. Il s'agit d'une violence, certes voilée, mais dont le caractère chronique fissure les fondements même du vivre ensemble. En lisant l'Évangile de cette façon, c'est-à-dire tout l'Évangile, y compris dans ses contradictions les plus dérangeantes, puis en acceptant les conclusions qui en découlent, prenons-nous le risque de nous éloigner de Dieu? Constater la violence de Jésus, n'est-ce pas aussi constater que le porteur du message, le message d'amour, n'est pas le message lui-même? N'est-ce pas comprendre que la bonne nouvelle peut être portée par tout homme, dans ses imperfections et dans ses faiblesses? D'une part, à trop humaniser Jésus, ne prend-on pas le risque de perdre de vue la dimension de Dieu, par définition sans limite? Ce risque existe. Il faut bien admettre que cet aspect des évangiles nous révèle un Jésus profondément humain. Ceci nous éloigne-t-il pour autant de la lumière de Dieu? D'autre part, comment rendre crédible un message d'amour universel alors qu'il s'accompagne d'une telle violence? Il revient à chacun d'y répondre. Pour ma part, je dois vous dire que 2000 ans après sa mort, Jésus me touche au cœur au-delà de sa violence. parce qu'il parle à l'intime de moi-même. Parce qu'il est là, tout proche. Reconnaître toute sa part humaine, nécessairement imparfaite, ne m'éloigne ni de lui, ni de Dieu, bien au contraire. Jésus, orphelin de père aux yeux de ta société, baigné de la lumière de Dieu, et seul dans ton message, mais quoi qu'il arrive, envers et malgré tout, messager de l'amour divin, je te reconnais comme mon grand frère en humanité. Pour ma part, je tente humblement de gravir la voie avec ce premier de cordée, tellement humain, imparfait et lumineux. Un guide qui me donne chaque jour la joie d'emprunter avec maladresse quelques-unes de ses traces. C'est ce qui me fait comprendre que son enseignement nous montre avant tout un chemin et jamais un but à atteindre. C'est ce qui me console et m'encourage tout à la fois lorsque mes actions s'écartent par trop de la voie qu'il nous propose. Et c'est ce qui me permet de témoigner ici, devant vous, de la bonne nouvelle, la nouvelle de l'amour apporté par Christ. Amen.